Voguer sous les arbres, une émission proposée par Hélène et Ninon.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, nous recevons Chloé Restivaux. Chloé Restivaux qui s'occupe de toute la programmation jeune public au sein de l'ADA. Donc l'ADA, c'est l'association départementale pour le développement des arts et tout ça, ça se passe dans le Tarn-et-Garonne. Alors bonjour Chloé.
Eh bien bonjour à vous, bilingué sous les arbres.
Bonjour Chloé. Alors Chloé, en petite présentation pour démarrer cette émission où tu n'as pas envie qu'on parle que de toi, mais nous, tu sais, c'est les parcours qui nous intéressent, donc on va essayer de voir tout ce que tu nous proposes ici sur le Tarn-et-Garonne en termes de culture pour la jeunesse. Comment est-ce que ça te semble une évidence? Comment est-ce que tu peux y passer autant d'énergie? D'où est-ce que ça peut venir, tout ça? Et donc, on t'a demandé de nous retracer brièvement, en quelques mots, par un petit CV sensible que tu nous as envoyé, ton parcours. Et là, on a découvert, parce qu'on te connaît, on te croise, moi je sais en tout cas qu'on a vécu des choses ensemble au niveau du théâtre, par exemple, au niveau du partenariat ADA Éducation Nationale, mais on peut connaître les gens et puis avoir aussi plein de choses à découvrir. Moi, j'ai découvert que tu étais née en Algérie. En Algérie, si je me trompe pas, de mémoire d'un papa italien et d'une maman qui vivait ici dans le Tarn-et-Garonne, enfin qui était ici du Tarn-et-Garonne.
Oui, je suis une fille issue d'un mixage incroyable avec une maman qui est née ici et un papa qui est né en Tunisie et qui avait lui-même des parents italiens.
D'accord.
Et mes grands-parents sont arrivés en Tunisie, ils avaient 7-8 ans. Et donc ils ont passé, c'est l'histoire de deux générations qui ont vécu en Tunisie, voilà.
D'accord, et du coup, ton papa italo-tunisien, ta maman quélusienne ou voilà, presque, du fin fond du Tarn-et-Garonne, 100% quélusienne, ils se sont rencontrés dans les pays chauds, tu nous racontes comment ça s'est passé, comment t'es arrivée là, toi?
Alors, je ne sais pas trop comment ils se sont rencontrés.
Ah, ils t'ont pas raconté.
Je crois que mon père est venu passer quelques temps au petit village où est née ma mère, à Saint-Projet exactement. Voilà. Et puis, il est venu avec sa sœur. Et voilà, ça a été une histoire de famille. Et ils se sont rencontrés là. Et après, maman est partie vivre, l'a suivie. Après, il restait un petit peu en Tunisie. Et après, ils sont allés s'installer en Algérie. Et je suis née là-bas.
Et toi, tu es née en Algérie.
Oui.
Et alors, tu y as passé... Moi, je suis née en France et j'ai vraiment pas beaucoup voyagé. Je suis toujours émerveillée des gens qui ont pu voir d'autres contrées. Tu y as passé beaucoup de temps?
Non, parce que forcément, avec les événements de 62, ouais, mes parents sont rentrés. Mais j'ai toujours senti au sein d'eux une espèce de souffrance comme quelqu'un qui a quitté son pays, en tout cas de la part de mon père, puisqu'ils y étaient depuis deux générations, ouais, en Tunisie. Et même maman était très attachée, restait très attachée à ce qu'elle a vécu là-bas. Voilà. Elle donnait des cours de couture aux femmes algériennes et elle a découvert plein de choses avec elle, hein, des grands moments de partage. Et à chaque fois, ça a été, je pense, très dur pour l'un et pour l'autre. Et du coup, j'ai vécu ça, ce fait de... Je crois, en tout cas, moi, j'ai quelques souvenirs, très peu, mais la musique, le son, les odeurs, c'est incroyable, comme j'ai l'impression que j'ai tout dans une petite boîte, tu sais, et que de temps en temps, je l'ouvre, je renifle et hop, je me rappelle ça. Et sans arrêt, ça, quand je vois des gens qui ont vécu, qui arrivent ici, qui ont vécu dans d'autres pays, ça me fait cette impression, voilà.
Un peu comme une forme de communauté, des gens qui auraient connu l'ailleurs, ça vous rapproche, ça? Tu penses que ça crée du lien entre les personnes?
Ça crée du lien, en tout cas, de ma part, ça crée un intérêt particulier. Voilà, une ouverture, se dire, ben voilà, toi aussi, un jour, tu as été obligé de quitter ton pays, et qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu arrives ailleurs?
Ouais, quelque chose de la nostalgie,
oui.
Et puis c'est lié à l'enfance aussi.
Nostalgie, je dirais pas ça, mais en tout cas, peut-être être conscient de ce que on peut ressentir quand on s'en va de quelque part, quoi, se retrouver dans un pays entre deux rien, quoi, celui qu'on a quitté et celui que
et du coup avoir besoin de se construire, de construire aussi quelque part, de créer son propre enracinement puisqu'il est plus naturellement à l'endroit où on a été déposé.
Oui, sur la Terre. Tout recommencer à zéro, et avec qui et quel regard ont les autres sur nous. Moi, quand je suis arrivée, quand on est arrivé d'Algérie, on est arrivé dans une cité, la cité Sélier, qui a été détruite maintenant. Et étonnamment, quand ils ont détruit les bâtiments, ça m'a fait quelque chose, quoi. C'est alors que j'ai pas forcément passé des super années, mais c'est des histoires de vie, comme ça arrive souvent d'ailleurs quand il y a des émissions. Vous avez pu le voir à Paris, quand ils ont détruit, je ne sais plus quelle cité.
Ah ben, ils ont quelque détruit part, la cité ça. Des Bosquets, et moi j'allais y passer tous mes mercredis chez ma tante, puisque j'étais du 93, et c'est ça, la cité des Bosquets, quand ils ont fait exploser les tours, ça fait quelque chose.
Ça
même
fait quelque
si
chose.
On n'aime pas cet habitat-là.
Oui. Il y a un souvenir très fort, hein, voilà. Moi, on est arrivé à la cité Sélier, et donc il y avait des pieds noirs comme mes parents. J'aime pas ce mot d'ailleurs, mais enfin c'est comme ça. Il y avait des Harkis, il y avait des Vietnamiens, puisqu'à l'époque il y avait l'histoire du Vietnam. Donc on a vécu, on a grandi, on était tous dans cette cité. Les gens de quelque part, on s'est tous retrouvés. Des gens de quelque part qui avaient quitté leur pays et tellement différents, avec des choses difficiles à vivre. Et en fait, on avait l'impression qu'on nous avait parqués dans cet endroit-là. Et en fait, on a appris à vivre ensemble. Et j'ai vu après, c'est ce qui me marque chaque fois, c'est que il me semblait, moi, dans ma mémoire, que ça allait, même si chacun respectait le terrain de l'autre. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir peur de l'arabe du coin ou de petits vietnamiens. J'ai pas du tout ce souvenir. Moi, j'ai le souvenir de gens qui étaient sur une île. On est arrivé sur cette île-là. Voilà. Elle s'appelle l'île de la cité Sélier. Et qu'est-ce qu'on y fait? Comment on se construit autour ensemble avec chacun son parcours de vie où on a laissé toute une vie derrière nous, qu'on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, quoi. Voilà.
Vous aviez ce point commun, c'est peut-être ce qui vous a rapproché et qui fait
qu'on allait à l'école de la Lande ensemble, on allait, on faisait du vélo,
Et on choisit la solidarité plutôt que les clivages. Surtout quand on est enfant, peut-être.
Voilà, moi j'ai pas le souvenir de clivage quand même. Il y en avait peut-être un peu plus vers l'âge de 13-14 ans, mais là l'adolescence c'est autre chose. Mais quand on est enfant, j'ai pas le souvenir de clivage. Voilà.
Moi je pense que c'est même une des richesses de l'enfance, c'est de justement pouvoir accueillir l'altérité.
Oui.
L'autre et justement toute sa diversité, parce qu'on sait qu'on va se construire aussi grâce à eux, s'enrichir.
Il y a ça, et il y a aussi comment les parents ont cette ouverture, parce que ça y fait beaucoup, l'enfant a une ouverture quand les parents les guident vers cette même ouverture. Si c'est pour que les parents s'enferment dans leur religion ou dans leur culture, l'enfant ne va pas forcément s'éveiller lui tout seul à ce qui se passe autour.
Ouais, et justement, toi, de ton côté, tu nous disais que tu sentais une espèce de nostalgie de tes parents d'avoir quitté leur lieu, mais toi, tu as pu bénéficier de cette ouverture d'esprit qu'ils avaient, de fallait rejeter les racines ailleurs, et ils l'ont fait, et ils l'ont fait avec les autres, du coup.
J'ai jamais senti de la part de mes parents, non, jamais. Non.
Toi, ça t'a formé aussi, j'imagine, ça. Tu as été imprégné de ce partage-là, de cette ouverture d'esprit vers les cultures qui nous entourent et qui nous construisent.
Oui, j'ai gardé cette curiosité et je crois le respect de l'autre. De ce qu'il est avec sa religion, avec son d'où il vient, et se dire que il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il faut juste qu'on laisse chacun son petit carré et laisser pousser ses fleurs à l'intérieur de son jardin, voilà.
Et puis faire des échanges de graines,
faire des échanges de graines, tout à fait,
pour avoir aussi jolies fleurs que le voisin. Alors ensuite, tu as vécu ta scolarité du coup ici dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, rapidement, à 17 ans, je crois, tu as découvert le théâtre.
Oui.
Avec la compagnie Jean Durosier.
Oui. D'abord, j'étais dans le début de ce qu'était une MJC, hein, c'était au Ramiro à l'époque, il y avait Dédé, je crois qu'il n'est plus avec nous, hein, non, c'est l'animateur Dédé, qui avait créé, avec la municipalité de Montauban, un lieu où les jeunes se retrouvaient. Donc, j'ai fait atelier photo, atelier théâtre, atelier danse. Et puis, un jour, dans le petit village, j'ai vu arriver une compagnie de théâtre, hein, monter les tréteaux, monter les gradins et répéter, commencer à jouer avec des costumes et tout. Mais j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà, moi, je veux partir avec eux.
Ça, c'est un souvenir qu'on doit avoir en commun de la compagnie du Rosier qui vient, qui s'installe. Moi, enfant, on venait d'arriver ici dans la région et je crois que le premier, j'ai dû voir les femmes savantes, Monsieur de Pourceaugnac, que jouait par la compagnie Jean du Rosier. Oui. Absolument incroyable, au petit lavoir de Quélus. Voilà, une compagnie de théâtre qui vient dans les villages, qui amène le spectacle comme ça, tout le répertoire de Molière. Mais toi, t'as franchi le pas, tu as pas seulement été spectatrice, tu les as rejoints?
Mais j'ai travaillé avec Jean du Rosier et Jean m'a dit mais c'est bien ce que tu fais, mais pourquoi tu reviens pas, tu viens pas nous rejoindre au sein de la compagnie et tout. J'ai dit au départ je me destinais pas forcément à ce métier. J'ai dit écoute, ce que je vais faire, c'est que on va être deux sur les rôles et je viendrai l'été tourner avec vous. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. On était deux sur les rôles. Il y avait la comédienne professionnelle qui était toujours avec la compagnie et quand elle pouvait pas venir, voilà, j'étais en doublure et ça m'a permis de partir l'été en tournée avec eux. C'était super, une super expérience, voilà. Et après, j'ai voulu continuer et travailler un théâtre autrement avec la compagnie du Théâtre de l'Acte à Toulouse où il y a Michel Mathieu, un peu fou. Et moi j'aime bien les fous. Et du coup avec Michel on a travaillé le théâtre autrement. On a laissé tomber les grands classiques. On a commencé à travailler autour des textes de Beckett, voilà. Et on commençait à envahir des lieux. C'était le début du théâtre de rue, hein.
Oui, avec une forme très contemporaine, très éclatée en fait, décalée.
On a commencé à s'habiller ou se déshabiller beaucoup quand même à l'époque. On commençait à envahir le théâtre des cuisines, je me souviens. On avait fait des premières visites au théâtre des cuisines par groupe de 10. Et on incarnait chacun un personnage et on leur faisait visiter le théâtre des cuisines à notre manière. Voilà.
Dans cette forme-là de théâtre, il y a une dimension politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on veut amener les gens à porter un autre regard sur la culture ou sur la vie par le choix des textes, par exemple les textes de Beckett, la façon de sortir le théâtre du théâtre pour l'amener dans la rue, pour l'amener vers les gens, vers le peuple.
Oui, il y avait ça, et puis il y avait aussi le côté décalé, en fait, c'était tout ce qui était bien de faire dans les années 80, c'était braver les interdits. Donc maintenant, pour des raisons de sécurité, on pourrait plus faire ce qu'on a fait, quoi, parce qu'on était sur des toits, on était sur des... Parce qu'après, on a fait des tournées, quand même, dans les villages aussi. Je me souviens dans l'Aveyron, où on était sur des pierres, en haut des toits des églises, sur la petite chapelle... C'est des trucs incroyables, quoi. Je sais plus si on aurait le droit maintenant de le faire.
Et pourtant, ça s'est bien passé. Et il y a pas eu de particularité qui fait qu'aujourd'hui, ça, pour des raisons de sécurité, ça doit s'arrêter. Alors que
oui, c'était moins contrôlé que
voilà.
Que
la
ça
sécurité
maintenant, oui.
Nous amène peut-être à une petite.
Non, et puis c'était bien aussi de travailler avec. Être aussi à l'écoute de l'écriture, de l'histoire et de ce que ça nous racontait aujourd'hui à cette époque-là, quoi. Je crois qu'il faut rester toujours sensible à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui et quelles sont les paroles des jeunes ou des auteurs autour de la question de au quotidien les problèmes rencontrés, qu'est-ce que ça nous rappelle et quels sont les écrits qui ont été portés autour de notre vie au quotidien. If I held my breath on you, I would die a thousand times. And if chewing was to show you how much I cared, I'll probably be wearing dentures by now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you'd probably swallow your tongue by now. Now promises broken, nemesis our token. You turn around, march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others the way you want to be treated. Yeah. Remember your days.
these days, Hennessy dries my veins as our Genesis smiles back at me. Now heresy might be a new fate, fate. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat. Ah, that's the way.
Et voilà, c'est Benjamin Clementine, c'est une voix incroyable. Bon, moi je suis un petit peu restée sur mes grands classiques personnels de pop rock, jazz, etc. Et lui, quand je l'ai entendu, mais ça m'a fait une émotion incroyable. Et je me suis dit, qui c'est ce mec? Et voilà, je suis allée chercher Benjamin Clementine, c'est un jeune de 24 ou 26 ans, qui est ghanéen, qui a vécu en Angleterre et qui a quitté l'Angleterre pour venir en France et il a commencé à jouer dans le métro avec son piano, et puis il a été remarqué par un producteur, et maintenant je crois qu'il est chez Barclay, et il a obtenu un prix pour les Victoires de la musique. Voilà. Ça fait plaisir de voir des jeunes comme ça, qui doivent avoir un parcours de vie aussi un petit peu difficile, et qui a une si belle voix, une musique incroyable, et alors des textes, bon, celui-là, j'en connais pas la teneur, mais les autres sont quand même assez forts. Oui, que de le faire découvrir, voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, de quoi ils nous parlent, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire, voilà. Ça m'intéresse toujours.
Et comment ils s'adressent à nous, effectivement.
Oui.
Qu'est-ce qu'on entend de la parole qu'ils veulent nous porter? Alors, tout à l'heure, quand on était hors antenne et qu'on parlait de tout ce qu'on allait se dire pendant l'émission, justement par rapport à ce que les jeunes ont à dire aujourd'hui, comment, qu'est-ce qu'ils peuvent entendre, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Tu nous disais par exemple, puisque toi tu t'intéresses énormément au théâtre et que dans tes recherches pour les programmations jeunesse, tu es allé voir quels sont les discours qui sont portés, quels sont les mots qui sont mis en théâtre ou proposés dans les créations contemporaines. De quelle façon est-ce qu'on s'adresse à la jeunesse aujourd'hui? Il y a encore plein de formes différentes de théâtre. Et tu nous disais que des fois tu étais surprise qu'on puisse encore parler de façon, enfin comme si on avait finalement, on s'adresse à la jeunesse, mais on s'adresse peut-être à notre jeunesse, de notre génération, sans mesurer à quel point la jeunesse finalement, elle est plus tout à fait la même. Quand on est jeune évidemment, mais les parents des jeunes de maintenant, leurs grands-parents ne sont plus les parents et les grands-parents d'autrefois.
Bien sûr, il faut rester attentif à ça, parce que sinon on est déconnecté de ce qui se passe au quotidien. Et il y a énormément d'auteurs contemporains pour la jeunesse qui écrivent sur des thèmes différents. et qui ont permis aussi de faire connaître un autre regard sur cette jeunesse qui interroge les choses d'actualité, qui interroge la maladie, qui interroge aussi parfois la mort, quand un être disparaît, qui n'est plus là, quand le grand-père ou la grand-mère est malade. Qu'est-ce qui se passe? Je pense au texte de Blanche de Fabrice Melchiot.
De Fabrice Melchiot, voilà. Qui est fabuleux.
Et puis il y en a bien d'autres encore. Il y a aussi un autre texte de Karine Serre qui s'appelle Mongol aussi, qui raconte l'histoire d'un petit gamin qui croit que Mongol, c'est quelqu'un qui vient de Mongolie. Mais en fait, lui, il croit qu'il vient de Mongolie. Il dit qu'il est mongol parce qu'il s'aperçoit qu'il est un petit peu différent des autres. Et le mot n'est pas le même, et comment lui, dans son voyage intérieur, se projette sur ce, comme s'il était un jeune mongolien qui partait avec ses chevaux dans la campagne, voilà.
Moi, j'ai découvert cette création, enfin ces œuvres pour le théâtre jeunesse, mais à travers l'action Théa dans l'éducation nationale. Et tu évoquais Fabrice Melchiot, j'ai rencontré Nathalie Papin, Joël Joanneau, et réellement dans leur texte, effectivement, on parle de sujets mais vraiment très très graves, dont on se demande parfois comment est-ce qu'on pourrait les évoquer avec les jeunes enfants. Et là, le texte de théâtre, les mots de ces auteurs sont vraiment des vecteurs qui permettent d'appréhender des choses essentielles et fondamentales de la vie, de pouvoir leur apporter une réflexion philosophique, même si parfois elle est un petit peu abrupte, parce que les mots, c'est pas enrobé, quoi. C'est pour les enfants, c'est à destination d'un théâtre, d'un public très jeune, parce que ça, à partir de 6 ans, 7 ans, ils sont tout petits. Mais c'est pas enrobé, c'est pas rose bonbon, c'est pas molletonné et confortable. Des fois, il y a une forme de, c'est abrupte, mais est-ce que c'est pas abrupte, un peu comme la vie aussi?
Ça, c'est une bonne question, parce que quand on lit ces textes, nous, adultes, forcément, il y a des références à ce qu'on a vécu, à ce qu'on connaît. La question, elle est toujours, et comment les enfants vont le recevoir? Et en fait, on est bête, parce qu'on a toujours peur de savoir comment les enfants vont le recevoir. En fait, ils le reçoivent bien mieux que nous, parce qu'ils se posent moins de questions, c'est plus direct. Et des fois, quand on lit un texte, on se dit, bon là là, les gamins, ils vont rien comprendre à ce qui est dit là, mais pas du tout. Pas du tout, parce que chacun se l'approprie de manière différente, et ces mots-là résonnent dans leur tête quand c'est bien écrit.
Alors ça, c'est...
Et c'est le cas de... Moi, je suis absolument ravie depuis quelques années, ça fait la quatrième ou cinquième année, de travailler avec l'OCCE 82 et Dominique Bénard, qui est la cheville ouvrière, et toute l'équipe, hein, Monique et Jocelyne qui sont derrière, parce que c'est un vrai plaisir de travailler avec elle aussi. On parle de gens engagés, peut-être... Je vous lance une piste pour les inviter, elles, de leur côté aussi.
Absolument.
On pense à elles, ça c'est sûr.
Et justement, à travers ces jeunes auteurs, qu'est-ce qu'ils disent aux jeunes d'aujourd'hui? Et tout le travail qui est fait derrière avec les classes théâtre, c'est-à-dire inviter l'auteur à l'école et puis travailler un extrait de la pièce écrite par cet auteur, la montrer sur scène à d'autres enfants avec d'autres formes, avec l'appui d'un artiste professionnel, ça c'est important, on n'est pas là au patronage. Je m'excuse, je dis ça parce que je vois tellement de choses terribles en théâtre pour enfants que je m'énerve, je peux. Il y a une différence entre un vrai professionnel qui anime un atelier théâtre et puis un animateur qui a jamais suivi de stage de théâtre avec les professionnels, par exemple, qui fait encore des choses pas forcément d'actualité. Le théâtre a beaucoup évolué, on fait résonner les mots différemment, on les fait résonner en chœur, on les fait résonner à plusieurs, on les fait résonner en chantant des fois ou en dansant parfois. Donc, ne pas oublier ces ouvertures d'esprit-là, quoi. Le théâtre a beaucoup changé, et notamment le théâtre jeune public. Je vois à peu près plus d'une centaine de spectacles par an, et chaque fois, je suis toujours étonnée de la qualité de création jeune public qui se fait depuis quelques années, on va dire depuis une dizaine d'années, de par les formes, de par le propos. Et quand on voit encore certaines compagnies qui travaillent comme, j'allais dire, avant, hein, nos jeunes d'aujourd'hui, maintenant, on s'adresse pas à eux comme on le faisait il y a 10 ans, quoi. Voilà. Et il faut rester en contact avec ça, parce que sinon, on est loin de tout.
Puis dans c'est peut-être le double tranchant de s'adresser à la jeunesse, c'est que c'est un exercice qui est difficile, mais après, au-delà de ça, la jeunesse, elle est réceptive à tout. C'est ça aussi, l'ouverture d'esprit qu'a un enfant, c'est que c'est ouvert aux mots abrupts qui sont les mots de la vie, mais lui, il a pas besoin d'enrobage, c'est nous, adultes, qui avons peur de parler de la mort, etc. Je pense qu'un enfant, il a pas, ça fait partie des choses. Après, on apprend à en avoir peur. Mais du coup, voilà, dans la construction d'un spectacle, j'imagine aussi que toute cette réceptivité, ça permet d'avoir toute la créativité, du coup, de pouvoir balayer large et de pouvoir inventer des nouvelles formes. Donc, du coup, toi, à travers les 100 spectacles que tu vois par an, tu dois avoir une panoplie énorme de comment on s'adresse à la jeunesse. Il doit y avoir des milliers de formes possibles.
Oui.
C'est l'avantage.
Oui, tout à fait. Et puis, après, il faut tenir compte d'une chose aussi, c'est que je ne travaille plus dans un théâtre, à part l'Espace des Augustins, où là, on a un vrai plateau. Mais après, on est dans des salles des fêtes, quand on travaille sur les communes et communautés de communes. Donc, du coup, l'espace est plus le même. Parce qu'une salle des fêtes n'a pas forcément un plateau. Donc, mettre les comédiens sur le plateau, les chaises devant, ça se fait, c'est très rare. Franchement, très rare. Donc, du coup, maintenant, on est au sol, avec un espace scénique différent. Sans culotte et sans papier, par exemple, de Sylvain Levé qui va être présenté à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Là, c'est un spectacle en bifrontal. Les comédiens sont au milieu et les enfants sont de chaque côté à suivre le spectacle. Voilà, on se situe dans une cour d'école et on met les gamins en situation comme s'ils étaient eux aussi assis sur un banc d'école. Voilà. Et ça m'intéresse. Chaque fois, c'est comment on replace l'enfant dans un univers particulier et pas nous on est sur scène et vous êtes sur des fauteuils. Donc essayez de créer une réelle synergie entre les deux espaces. Voilà.
Parce que c'est une volonté marquée fortement de pouvoir transformer cette habitude qui s'est installée quand même depuis des années et des années d'être consommateur. C'est-à-dire qu'on va finalement prendre une chose, l'autre, il y a un petit outil avec plein de boutons qui s'appelle la télécommande et qui permet de commander un écran de télévision. Et c'est bien parce qu'on n'est pas en synergie avec ce qui se passe, on nous débite des images au kilomètre qu'on consomme, qu'on reçoit même des fois de façon tout à fait passive. Et on peut zapper quand il y a de l'ennui qui s'installe, tout simplement parce qu'on n'est pas inscrit dans le propos. Alors justement, des formes où il y a une véritable énergie, où il y a une véritable dynamique, une interrelation, on n'est plus consommateur. On va être presque acteur, si ce n'est auteur, de ce qui se passe dans la salle. Sans le public, le spectacle ne va pas fonctionner.
Oui. Et après, il y a aussi le fait que quand on travaille beaucoup avec les établissements scolaires au préalable, on essaie de faire en sorte qu'ils aient... Moi, je leur envoie chaque fois un dossier sur le travail de la compagnie, sur le travail du texte, même des fois le texte. On organise beaucoup tout ce qui est atelier de pratique artistique à l'école en invitant les comédiens à aller passer 2 heures d'atelier dans la classe pour les faire aborder le texte, pour commencer à mettre un texte en bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, écouter les mots, en comprendre le sens. Ça, on le fait depuis 4-5 ans. Maintenant, on commence à avoir tout ce travail-là d'éducation artistique à l'école. Essayer de faire en sorte aussi que les enfants créent avec les artistes. Là, cette année, pour l'inauguration du festival, il y a 2 classes de l'école de Castelmeyran, un petit village. Donc, un enseignant joue de la guitare, d'ailleurs. Voilà, ils qui ont participé au projet, ils ont travaillé avec Hervé Subiette du spectacle, c'est lui qui a créé le spectacle Pas vu, pas pris, à partir des textes de Bernard Friot. Et on a invité Hervé Subiette à aller travailler dans les classes pour que les enfants écrivent des textes de chansons. Ça veut dire quoi, écrire une chanson? Ça veut dire quoi déjà écrire un texte? À partir de quoi on part? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bon, ils ont trouvé le thème du jardin, le jardin secret. Le jardin qu'on a dans son cœur, le jardin qu'on a envie d'inventer, l'école qu'on a envie de transformer en jardin. Et ils sont partis de là et ils ont écrit 6 chansons, chaque classe. Et Hervé les a invités, les a guidés dans l'écriture de ces textes avec les enseignants, bien sûr. Les enfants ont choisi des musiques aussi, ont trouvé le rythme des mots et trouvé le rythme de la musique à créer. Hervé a créé avec ces rythmes-là. Et ils vont chanter leurs 6 chansons pour l'inauguration du festival samedi 14 mars à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Et on invitera les parents à venir découvrir aussi le travail des enfants. Et du coup, ça sensibilise un peu les gamins. Ça veut dire, on écrit une chanson, mais alors c'est comment quand on écrit une chanson? C'est quoi des rythmes? Il en faut pas? Est-ce qu'on met du rap dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on y met plutôt du violon? On y met plutôt une batterie? Qu'est-ce qu'on y met derrière? Voilà.
Puis ça veut dire que l'écoute ensuite de la chanson, la façon dont on va percevoir l'œuvre d'autrui, finalement, on va y accorder un autre intérêt parce qu'on saura à quoi ça ressemble, l'effort qu'il a fallu, qu'est-ce qu'il a fallu mettre en œuvre. Et du coup, alors quand tu disais aussi préparer la venue d'un spectacle dans un établissement scolaire en découvrant le texte, en découvrant comment on le dit, ce qu'on en fait, forcément les enfants, ils vont plus être assis devant un inconnu qu'ils ne peuvent pas appréhender parce que c'est très éloigné, par exemple, de leur culture, de leurs habitudes. Le fait d'avoir comme ça préparé, prédisposé ces enfants à accueillir le texte ou une mise en scène absolument novatrice, quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir. Souvent, il n'y a pas des grands décors dans les spectacles de théâtre plus contemporains. C'est très épuré. Il y a un ou deux comédiens, des lumières qui sont juste, qui suggèrent, quoi. On n'est plus dans des grands décors, des grands costumes, etc. Ça peut encore arriver, mais en tout cas, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, il va être dans le mot. Et préparer les enfants à entendre les mots en les leur donnant en pâture, finalement, c'est certainement la meilleure façon de faire.
Oui, et aussi donner, être à cette écoute-là et leur donner la chance de, peut-être on se dit, tiens, peut-être qu'il y en a un d'entre eux qui un jour voudra faire ce métier, voudra écrire, voudra... Parce que ça, c'est important aussi. On se demandait, vous m'aviez demandé, oui, mais comment t'en es arrivé là? Alors du coup, le fait que je cherche, mais pourquoi je suis arrivé là à faire ce métier, etc. Mmh. Et oui, c'est vrai, la rencontre avec Jean Durosier a été importante aussi, mais au-delà de ça, il y a aussi comment les enseignants ont su me sensibiliser au spectacle vivant. Et j'avais un prof de maths, il s'appelait Jésus, Monsieur Jésus, je crois qu'il est encore là.
Tu as eu Monsieur Jésus? Non, je l'ai pas eu, mais il était au collège Mon Plaisir.
Mon Plaisir, oui, j'ai eu Monsieur Jésus.
J'ai eu cette chance-là voilà. aussi.
Ah, tu l'as eu?
Oui.
Voilà. Et moi, j'ai fait l'ouverture du collège Cité Mon Plaisir. Bon, ça nous rajeunit pas tout ça. Bon, bref, Monsieur Jésus, donc, était quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma. Et quand j'étais en 6e, 5e, il a monté un club de cinéma. Et on choisissait des films avec lui, donc j'ai découvert les Groucho Marx et tout, l'histoire de Chaplin, etc. Oui. Et du coup, on visionnait un petit peu des extraits, on choisissait des films et il nous apprenait à faire la communication aussi. On rédigeait des tracts en disant, voilà, aujourd'hui, à la cantine, à 13h ou à 16h, vous pourrez voir tel film, etc. On préparait un texte de présentation. On présentait le film, qu'est-ce qu'il en était, on faisait des débats à la fin du film, etc. Mais je me disais, avec le recul, j'y ai pensé en préparant l'émission, je me suis dit, mais voilà, peut-être que lui, quelque part, ben il a fait qu'il nous a fait ouvrir les yeux sur plein de choses nouvelles, quoi. Et se dire, tiens, le cinéma, c'est quoi? Pourquoi j'aime aller au cinéma? Et pourquoi j'aime tout ce qui se passe autour?
Et c'est là, je trouve, qu'il y a effectivement la lourde responsabilité pour les enseignants, parce que... il y a une émission de radio là où une thématique qui le disait, et je trouve qu'elle le dit très bien, c'est on a tous un enseignant au fond du cœur. Il y a toujours les rencontres d'un enfant, ça passe beaucoup par l'école parce que c'est un lieu, c'est notre lieu de vie principal quand on est enfant. Et c'est lié à des personnes, toutes ces expériences là. Voilà, moi pour continuer sur la lignée de Monsieur Jésus, moi je l'ai eu donc bien après, à la fin de sa carrière, et le collège s'appelait pour l'occasion Olympe de Gouges, et pour l'occasion on avait réalisé un film. On avait eu cette chance là, moi j'ai eu cette chance là de d'aller dans la 3e et 4e, alors je sais plus comment on l'appelait, cinéma ou alors je sais plus comment on l'appelait, mais voilà, on a décortiqué, qu'est-ce que c'était, on a écrit scénario.
Il n'avait pas changé.
On a travaillé tout ça avec le corps enseignant parce qu'il n'était pas tout seul à mener l'histoire, donc je rends hommage à tous ceux qui nous ont permis cette expérience-là, mais c'est vrai qu'on s'en souvient encore et ça nous a porté, ça nous a enrichi. Et voilà, toutes ces expériences-là d'ouverture d'esprit que peut nous amener la rencontre entre le corps enseignant et puis les artistes, c'est... C'est assez magique quand c'est bien fait. Donc merci de travailler pour notre futur, pour notre jeunesse.
Il y a, je pense à ça aussi, quand même, parce qu'il y a la Reine Théâtre avec qui on avait fait une intervention auprès des enseignants au titre de la formation des enseignants. La Reine Théâtre a expliqué un petit peu leur parcours, comment ils avaient travaillé, et Eric Sanjou a dit, ben, moi, j'ai aimé le théâtre parce que j'avais un prof de français quand j'étais en quatrième. Ouais. Qui m'a fait découvrir le théâtre. On allait au théâtre à chaque fois, dès que possible. Et du coup, il a été fasciné par ça. Et maintenant, il est metteur en scène d'une compagnie. Il fait un travail absolument remarquable. Voilà.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde.
Oui, c'était Tiken Jaffa Coli. D'abord, j'adore Tiken Jaffa Coli. Et puis, ils ont partagé le monde. Plus rien ne m'étonne, voilà. On est tous venus d'un monde différent et ils ont tellement partagé le monde que bah, la situation actuelle, un peu partout dans le monde, est ce qu'elle est. Et voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est aussi j'ai choisi ce moment-là parce que ça commence par une voix d'enfant et ça termine par une voix d'enfant. Il faut pas l'oublier qu'au milieu de tout ça, il y a les enfants et peut-être nos enfants. Voilà.
Alors on est toujours avec Chloé Restivo, qui est donc responsable de la programmation jeunesse au sein de l'ADA du Tarn-et-Garonne. Et donc, et notamment, pardon, l'événement qui arrive là, qui a déjà commencé d'ailleurs, c'est le Big Bang des arts dont tu vas pouvoir nous parler, parce qu'on était en train de parler effectivement de toute la richesse quand le corps enseignant s'approprie les outils d'éveil, ou en tout cas de l'enfance et à travers les artistes qui s'adressent à la jeunesse. Mais il y a aussi la responsabilité des parents qui peuvent s'en approprier, qui peuvent se l'approprier et accompagner les enfants, et notamment à travers le Big Bang des arts. Donc tu vas pouvoir nous parler de cette programmation riche et variée et qui est surtout sur tout le territoire du Tarn-et-Garonne. Et ça c'est aussi une chance.
Ah, c'est une chance parce que on a travaillé avec, il y a toute une équipe au sein de la programmation du festival du Big Bang. On a essayé d'inviter en tout cas tous ceux qui travaillent à l'attention du jeune public, de créer une dynamique commune et comment on peut travailler ensemble autour de cet événement. Chacun avec sa spécificité, avec ses connaissances, avec les thèmes dont ils ont envie de partager et d'aborder. Et c'est pour ça qu'il y a également le musée Calbé à Grisolles aussi, avec Yvan Poulain qui est quelqu'un qui est toujours curieux de ce qui se fait et qui propose des choses un petit peu particulières, original et décalé même, on va dire, notamment à travers son exposition là, Le Gentil Garçon, allez-y, parce que c'est très intéressant et c'est vous allez passer un moment agréable. Et puis on travaille également avec le réseau Lecture Publique de Nègrepelisse, avec l'association Moissa Culture, avec l'association Même sans le train à Saint-Antonin, avec les amis de la médiathèque autour du festival de Contes, j'oubliais personne, avec la médiathèque de La Française également, avec les services départementaux de la médiathèque départementale, avec Émilie Terra qui fait une programmation aussi de films, d'animation. Voilà, on essaie la MJC de la Bastide Saint-Pierre également. Il y a aussi le local, Chantal Durosier, avec les amis du théâtre et la Ligue de l'enseignement qui sont autour de la table pour parler de la programmation. Voilà, comment les uns et les autres peuvent partager leur façon de travailler et aussi leurs préoccupations. Voilà. Et je crois que ce qui est intéressant à travers tout ça, certes, il y a le réseau jeune public, bon, ça c'est bien, et il y a tout le travail avec les enseignants qui sont quelque chose d'important et de marquant. Mais moi, j'ai envie de dire, quand j'ai entendu récemment que oui, les enseignants, faut qu'ils refassent la morale à l'école, etc. Mais bon, très bien, merci les enseignants, mais ils sont où les parents? Non, parce qu'au bout d'un moment, quand même, les enfants, ils ont bien des parents. Donc, à un moment donné, tout n'est pas à faire à l'éducation nationale et aux enseignants, à l'éducation nationale et à l'institution. Nous, parents, comment on ouvre l'esprit de nos gamins? Qu'est-ce qu'on fait pour se dire, tiens, ben écoute, là, il y a quelque chose à voir. Et puis, ceux qui viennent partager ce moment de spectacle vivant avec un enfant, pour moi, c'est extraordinaire. Voilà.
Oui, ils vivent la même magie. Alors souvent, dans la culture, on va penser aussi que c'est parce que c'est pas toujours accessible, parce qu'on pense directement, alors autant que ça prend, mais on va essayer de vivre en prenant du temps, au prix que ça coûte. Or, dans la programmation, par exemple, là, du Big Bang des Arts, il y a quand même un certain nombre de spectacles qui sont proposés et auxquels on peut accéder et qui sont gratuits. Où on peut
certains
aller,
sont gratuits, bien sûr. Et puis après, c'est 4 euros l'entrée pour le séance scolaire, 5 euros pour les enfants et 8 euros pour les adultes. Quand il y a des familles, on fait à 5 euros, on n'est pas là. Mais en sachant qu'on n'a pas changé les prix depuis le passage à l'euro.
Voilà, tout augmente,
et quand
mais pas la culture.
Aujourd'hui, comme on dit, vous comprenez, 5 euros, c'est cher. Ça m'inquiète, parce que 5 euros, c'est cher, effectivement, vu la conjoncture actuelle. mais on n'a pas changé nos tarifs depuis le passage à l'euro.
Donc on ne peut pas non plus brader les spectacles culturels au prétexte qu'on n'en aurait pas les moyens. Les leviers, ils sont à trouver ailleurs.
Mais bien
sûr. Effectivement, une famille qui vient, papa, maman, trois enfants, très rapidement, on a trois quarts d'heure qui sont revenus assez chers. Mais j'imagine qu'on peut même expliquer ça à l'entrée du...
Mais quand c'est des familles nombreuses, on fait des tarifs à 5 euros. Il y a la carte Sésame, il y a la carte Jeune, il y a la carte Slam, il y a la carte Région Midi-Pyrénées. Cette année, justement, on en parlera aussi, le ministère de la Culture a lancé une grande opération nationale qui s'appelle La Belle Saison. Et au titre de cette belle saison qui met en avant la création artistique pour le jeune public, tant au niveau des œuvres qu'au niveau des écrits, des textes contemporains pour la jeunesse. En Midi-Pyrénées, on est tout un réseau de programmateurs à avoir demandé au Conseil régional de travailler autour de l'édition d'une carte postale qui s'appelle « C'est ma belle saison en Midi-Pyrénées » où chaque enfant pourra écrire un petit mot à la fin du spectacle et on le donnera aux artistes. Et également, on a créé des cartes passes qui, dès le premier achat d'un carte passe, donnent des tarifs réduits à tous les spectacles en région Midi-Pyrénées, partout où ils iront avec cette carte passe.
Et alors ces informations-là, comme par exemple le petit livret du Big Bang des Arts qui nous donne tout le programme du festival, on les trouve dans les médiathèques,
Oui, dans les médiathèques, dans les communes qui participent au festival et puis sur le site internet, www.ada82.fr, il y a toute la programmation, la billetterie en ligne aussi avec le partenaire Festic, donc voilà.
Donc voilà, soyez curieux, si vous allez à la médiathèque dans la semaine, prenez le petit livret, sinon si vous avez une connexion internet,
on envoie le programme aussi.
Voilà, et alors on peut donner déjà comme date, même si le festival a démarré avant, tu l'évoquais tout à l'heure, la date du samedi 14 mars, c'est l'inauguration du Big Bang des Arts.
Oui, samedi 14 mars à Saint-Nicolas-de-la-Grave où on invite la compagnie Hervé Subiette autour d'un théâtre musical qui s'appelle Pas vu, pas pris, autour des textes de Bernard Friot, et c'est là que les enfants de l'école de Castelmayran pourront proposer leur création avec leurs chansons et leur musique.
Voilà, ils ont créé des chansons, ils vont venir les jouer, les interpréter.
Oui, avec les musiciens d'Hervé Subiette. Attention, mesdames et messieurs.
Alors, pour profiter de ça, c'est à 20h30, à l'espace culturel Jules Fromage.
Oui.
De Saint-Nicolas-de-la-Grave, samedi 14 mars. Et alors, je fais une parenthèse tant que je suis dans l'agenda, parce qu'alors, ça n'a... Encore que, j'allais dire, ça n'a rien à voir et c'est pas vrai du tout. Ça a quelque chose à voir. On peut toujours faire des liens et chercher des ponts. Dans l'agenda, je souhaitais dire aussi que juste avant le 14 mars, donc le vendredi 13 mars, il y a une soirée organisée par ATTAC à la Maison du Peuple à Montauban. En fait, c'est une soirée qui suit l'Assemblée Générale d'ATTAC 82, qui, elle, débutera à 19h et puis qui concerne tous ses adhérents. Mais à partir de 20h, il y a un repas partagé, ça c'est toujours intéressant. Et à 21h, une soirée expression, et c'est une soirée qui permettra de rendre hommage à Bernard Maris, qui faisait partie du comité économique d'ATTAC. Et donc, cette soirée expression, on est tous très largement invités à venir avec des textes ou des dessins déjà écrits, déjà dessinés, ou alors à écrire sur place ensemble, à dessiner sur place ensemble. Des instruments de musique, pourquoi pas aussi, parce que la liberté d'expression, tout ce qui est expression, ça passe aussi par la musique, pourquoi pas du théâtre. Il y aura des lectures de textes, enfin vraiment une soirée où tous ensemble on autour des mots forts de la solidarité, de la liberté, on pourra créer quelque chose ensemble. Et ça, c'est vendredi 13 mars, 21h, à la Maison du Peuple de Montauban. C'était la rubrique agenda.
Et alors, moi, je complète la rubrique agenda, peut-être pour revenir vers le Big Bang des Arts, ce qui couvre les spectacles. Il n'y en a pas qu'un seul, l'inauguration donc à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Mais ça court sur la plaquette, c'est mentionné du 2 mars jusqu'au 7 mai.
Oui.
Il y a une programmation qui est quand même
Mais jusqu'au 7 mai, parce que on parlait d'artistes à résidence aussi, et moi, on y tient beaucoup au sein de l'ADA. Je travaille avec ma collègue Sonia Ducasse, qui, elle, est en charge de la danse et de la musique. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'inviter des artistes en résidence de travail. Et cette année, on a invité à Beaumont-Lomagne la compagnie Rapprochée, qui est une compagnie de danse qui est installée en Haute-Garonne. Et on les a, avec le soutien de la région Midi-Pyrénées, on les accueille à résidence de travail à Beaumont-Lomagne, à Moissac et sur la ville de Tournefeuille pour créer leur prochain spectacle qui s'appelle Amour. Donc c'est une compagnie, ils sont arrivés à 5, ils ont investi des lieux, ils ont cherché des places derrière l'église, sur la place qui est magnifique à Beaumont-Lomagne. Ils ont trouvé des petites cours, des jardins pour raconter des histoires d'amour sur divers thèmes. Et ça a permis de leur laisser ce temps-là de création, et c'est pour ça que le festival se terminera au mois de mai.
D'accord.
À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée billée. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Voilà Dieu qui m'a fait mal.
Alors, Natacha Atlas, pourquoi Natacha Atlas et cette chanson? Parce que d'abord, c'est une chanson qui a été, c'est une chanson française, puisque c'était Françoise Hardy qui l'a chantée, et reprise par quelqu'un comme Natacha Atlas avec la version arabisante. Voilà, je me sens un petit peu concernée entre les deux. Et je trouve très beau quand elle finit ce texte en le chantant en arabe. Voilà, le lien entre l'un et l'autre, extraordinaire. Voilà. Ça, c'est mon coup de cœur par rapport à mon vécu. Les autres, c'est plus militant et plus actuel, mais voilà.
Là, c'est une chanson dans laquelle tu te reconnais.
Oui, et puis on y bien peu de choses, non? C'est pas vrai.
Alors, Chloé, on continue pour cette fin d'émission. Encore une fois, on pourrait, on va demander à CFM de nous faire un créneau de 2 heures parce qu'on a des invités tellement passionnants qu'il nous faut tout ce temps-là. Donc, on a plus guère de temps pour avant d'arriver au terme de l'émission, mais on va continuer de parler de cet événement majeur du Big Bang des Arts qui se déroule là tout de suite maintenant. Et tu voulais revenir en particulier sur une date de ce Big Bang, une date qui sent bon le printemps, le 21 mars.
On s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'aiment les enfants? Les enfants, je crois qu'ils aiment bien les surprises. Alors, autour de cette histoire de belle saison dédiée à l'enfance et la jeunesse cette année, on s'est dit, tiens, on va essayer de créer un événement qui pourrait s'appeler la belle surprise. Et on invite le public, les parents, les enfants, les papis, les mamies, tous ceux qui veulent, de venir passer un moment avec nous, prendre un bus. Donc, le rendez-vous est prévu à 14h, samedi 21 mars. Sur le parking de cimetière des Chaumes, bon alors c'est pas agréable de dire ça, mais c'est un parking où on se gare facilement, où le bus peut tourner quand il va arriver. Les gens monteront dans le bus. On a travaillé cette programmation avec l'association Au Babeltut à Saint-Antonin qui organise les transports culturels. Donc il y a déjà une trentaine d'inscrits dans leur bus de chez eux. Ils viendront jusqu'à Montauban. On prendra le public montalbanais qui montera dans le bus. Ils ne sauront pas où ils iront. Personne. On va leur amener, on les amènera dans 2 endroits différents. C'est tout ce que je peux dire. Et retour sur le parking à 19h.
Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu nous as indiqué le lieu et l'heure de rendez-vous, mais on ne peut pas y aller comme ça au risque de ne pas avoir de place dans le bus. Oui. Il faut réserver.
Oui, il faut appeler à l'ADA 82 au 05 63 91 83 96. J'y tiens beaucoup parce que moi j'aime bien, je suis un peu comme les gosses. Ah, une belle surprise, on va aller où? On fait quoi, maman? Mais on te le dira pas.
Allez, dis-le.
Et on le dira pas aux adultes non plus. On va se retrouver dans cet état d'envie de partager un moment de folie et de, on va dire, de surprise ensemble.
Voilà, alors une belle surprise pour démarrer le printemps. Et il nous reste, c'est Abdoul qui nous le dit, il nous fait un signe avec le pouce levé, ça veut dire qu'on est formidable, ou alors qu'il ne reste qu'une minute, ou alors les deux. Ah, il reste 2 minutes, alors les deux. Et donc, cette belle saison en Midi-Pyrénées, tu as évoqué tout à l'heure le fait des les cartes postales qu'on pourrait trouver au niveau des à l'entrée des spectacles, en
oui,
fait.
Oui, on va distribuer des cartes postales qui s'intitulent « C'est ma belle saison en Midi-Pyrénées ». J'écris aux artistes pour leur dire ce que je pense, ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai ressenti. On en donnera un petit peu partout sur toutes les séances tout public, famille, et j'en donnerai quelques-uns aux scolaires avec l'envie de mettre, si je m'écoutais, j'aurais bien envie d'accrocher ces cartes postales un peu partout au conseil général pour leur dire voilà ce que ça veut dire aujourd'hui, le spectacle aujourd'hui, un peu
une
partout
fois
dans les institutions.
Remplies, une fois qu'on a écrit.
Et oui, pour savoir pourquoi on travaille et quels sont les retours que le public nous donne, parce que c'est une sacrée récompense quand il y a un enfant qui s'approche de nous et qui nous dit mais c'était beau madame. Voilà, on s'est dit que même si on n'a pas toujours la reconnaissance du travail qu'on fait, en tout cas les enfants nous la donnent et ça c'est primordial, c'est pour eux qu'on travaille.
Merci beaucoup Chloé.
Voilà, merci
beaucoup. On arrive au terme de l'émission.
Et au plaisir de vous accueillir sur tout ce temps-là.
Sur tous les spectacles de ta programmation. Merci, au revoir.